Rendez-vous d'Haïti et des Amériques, Anne Verdaguet, bonjour.
Bonjour Edmond, bonjour à tous. On va vous parler aujourd'hui de cette polémique qui fait la une de la presse américaine. Les démocrates montent au créneau sur la crise migratoire et décrivent des conditions de vie sordides dans les centres de détention. Et puis on ira aussi côté mexicain où un premier bilan est dressé après l'accord signé avec les États-Unis sur l'accueil des migrants. Le pays semble ne pas pouvoir gérer leur afflux d'Amérique centrale. On ira aussi en Italie où la communauté vénézuélienne s'organise pour faire parvenir à leurs familles des médicaments et des vivres.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Mais on commence avec cet événement en Haïti et il est fort à parier qu'ils seront nombreux devant leur poste de radio ou de télévision. Ce soir, on parle de foot, bien sûr, et de la Gold Cup. Haïti dispute ce soir la demi-finale de cette compétition face au Mexique, match qui aura lieu en Arizona. Un événement pour les Grenadiers qui réussissent pour la première fois de leur histoire à se hisser à ce niveau de la compétition. Pour le sélectionneur haïtien Marc Colla, c'est le fruit notamment du soutien que la fédération reçoit des institutions footballistiques. On l'écoute.
La CONCACAF et surtout la FIFA ont depuis quelque temps donné des fonds de manière évidente aux petites nations et cet argent permet aux sélections et notamment aux dirigeants de faire venir des joueurs de meilleure qualité, des joueurs professionnels qui jusqu'à là rechignaient à venir en sélection. Aujourd'hui, on a des joueurs professionnels dans cette équipe, ce qui n'a pas toujours été le cas auparavant. Je crois que tout ça, ça fait un tout. Et cette équipe haïtienne a comme devise de jamais rien lâcher.
Le sélectionneur haïtien Marc Colla. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et de ce match historique, on en parle aussi dans la presse haïtienne. Vous avez joint par téléphone Godson Pierre, notre partenaire d'Alter Presse, pour connaître l'ambiance sur place. Et selon lui, Haïti n'attend ni plus ni moins qu'un exploit ce soir.
Je pense que c'est un mot qui résume tout ça, c'est l'espoir. On croit en une victoire possible d'Haïti. Les gens en parlent partout et même dans les salles de nouvelles, les commentateurs sportifs s'attendent donc à un exploit de l'équipe haïtienne aujourd'hui face au Mexique. C'est un match quand même qui revêt un caractère particulier dans le contexte sociopolitique actuel en Haïti. Les gens pensent que un résultat favorable pour Haïti suite à ce match pourrait peut-être changer les choses au niveau sociopolitique, soit amener un apaisement, ou même au niveau des réseaux sociaux, on en parle, que peut-être ça pourrait ouvrir la mobilisation anti-gouvernementale.
À la une d'Alter Presse également, Godson Pierre, l'attaque contre le cortège du député de Petit Trou de Nippe, Claude Le Guillaume. Une attaque qui a fait 6 morts.
Et ce sont des individus non identifiés qui auraient attaqué le véhicule qui tentait de franchir une barricade. Le contexte, c'est que ces derniers temps, on a souvent observé des mouvements de protestation en région en faveur de services publics non existants ou fonctionnant mal. Et il faut dire que les NIP, c'est pas une des régions les plus chaudes du pays, pourtant.
Sur le site d'Alter Presse, vous parlez aussi de la plateforme paysanne Crose, réunie en congrès à Jacmel. Quel est l'ordre du jour de ce congrès?
Eh bien, le thème principal, c'est « Ensemble contre la corruption ». Et pour la bonne gouvernance, c'est un thème qui cadre bien selon les dirigeants avec le contexte actuel, même si la lutte contre la corruption ou l'impunité faisait déjà partie des principaux objectifs de ce mouvement. Ce mouvement qui est reconnu à travers le pays, même s'il est régional, pour avoir été fondé par un ancien ministre de l'Agriculture qui s'appelle Gérald Mathurin, une figure emblématique du mouvement social haïtien. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. D'ailleurs, ça fait près de 2 ans que Gérald Mathurin est décédé. Donc le mouvement avec ce congrès tente une forme de renaissance pour prouver à tout le monde que ce mouvement existe encore et se renforce.
Godson Pierre, on a parlé du match Haïti-Mexique ce soir, mais il y a aussi une autre actualité qui concerne les deux pays beaucoup moins festive. Il s'agit de la crise migratoire qui secoue l'Amérique centrale. Alors, selon vos informations, plus de 80 migrants haïtiens sans papier ont été rapatriés ce week-end du Mexique.
80 migrants, oui, mais le Mexique voulait ramener en Haïti 116 migrants, mais il y a eu des problèmes parce que une trentaine se sont rebellés. Et il y a eu des bagarres entre policiers et migrants au Mexique. Et finalement, on apprend que 35 sont gardés encore au Mexique dans un centre de détention, tandis que 10 policiers ont été blessés lors des échauffourées.
Merci beaucoup, Godson Pierre. Tout ça, c'est évidemment à lire sur le site d'Alter Press. Merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Voilà, et on continue de parler de la crise migratoire aux Amériques avec vous, Arim, car c'est un sujet qui fait la une de plusieurs journaux ce matin.
Oui, le Washington Post dénonce les conditions de détention des migrants au Mexique. Le nombre de personnes dans les centres d'hébergement est 5 fois supérieur aux capacités d'accueil. Il y a des migrants qui sont transférés dans des stades de football. En fait, ces conditions de détention se sont détériorées le jour où le Mexique a signé un accord avec les États-Unis, écrit le Washington Post. Selon le journal qui a interviewé plusieurs responsables d'organisations des droits humains, bien le Mexique est incapable de traiter les migrants avec dignité.
Et côté mexicain, justement, Arim, qu'en dit la presse sur place?
El Universal, par exemple, fait état d'un rapport de l'organisation Human Rights Watch. Ce rapport est en cours de publication et d'après ce qu'on sait déjà, il dénonce les violences, les séquestrations et les abus sexuels dont sont victimes les migrants qui attendent, vous savez, dans les centres de détention au Mexique, que leur demande d'asile soit étudiée par les États-Unis. Mais les conditions sont aussi exécrables dans les centres aux États-Unis même, et notamment pour les enfants, en témoigne une vidéo postée sur le site d'El Universal. Sur cette vidéo, une jeune fille de 12 ans raconte que les enfants sont maltraités, mal nourris, qu'ils ne peuvent ni jouer ni prendre une douche. Une situation dénoncée par plusieurs élus démocrates, dont Alexandria Ocasio-Cortez, qui avait comparé les centres de détention à des camps de concentration.
Alexandria Ocasio-Cortez, cette députée qui est la cible d'attaques sexistes et racistes par un groupe d'agents des frontières.
Oui, exactement. C'est ce qu'a révélé le site de recherche ProRepublica. D'après ce site, il existe depuis 3 ans un groupe privé sur Facebook qui rassemble plus de 9000 agents de la patrouille aux frontières actifs et retirés. Parmi les publications postées sur le site, des montages photos montrant par exemple Alexandria Ocasio-Cortez dans un acte sexuel avec un migrant. Les membres de ce groupe se moquent aussi des migrants qui ont perdu leur vie alors qu'ils tentaient de traverser la frontière avec les États-Unis. Le service des douanes et de la protection des frontières a ouvert une enquête, mais selon le New York Times, ces publications révèlent un état d'esprit inquiétant parmi les agents en charge d'arrêter des migrants et des demandeurs d'asile. Ils sont complètement déshumanisés, estime l'élu démocrate Joaquin Castro, cité par le journal, et représente de ce fait une menace pour les migrants.
On part au Venezuela à présent, à Rime, où la mort d'un militaire en détention dimanche, alors qu'il était accusé de sa participation présumée dans un coup d'État, continue de faire réagir. Hier, Michelle Bachelet, haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, ancienne présidente du Chili, s'est dite choquée par la mort du capitaine Rafael Acosta. Malgré les demandes de l'opposition vénézuélienne et d'une partie de la communauté internationale, aucune enquête de l'ONU n'est prévue pour le moment. La correspondance à Caracas de Benjamin Delisle.
Un peu plus d'une semaine après sa visite au Venezuela, Michelle Bachelet s'est dite bouleversée par la mort de Rafael Acosta et par le fait que son traitement en détention pourrait en avoir été la cause. Le leader de l'opposition, Juan Guaido, et plusieurs organisations de défense des droits de l'homme assurent que le militaire est mort des suites de tortures infligées par des agents de la Direction Générale du Contre-espionnage Militaire. Soutenu par les États-Unis, l'Union Européenne et plusieurs pays latino-américains, il demande à l'ONU d'engager une enquête impartiale sur la mort du capitaine Acosta. Mais l'ancienne présidente chilienne s'est contentée d'appeler les autorités vénézuéliennes à mener une enquête, je cite, « approfondie, indépendante et transparente ». Le procureur général du Venezuela Tarek William Saab, a annoncé ce lundi que deux agents ont été interpellés et incarcérés pour responsabilité présumée dans la mort de Rafael Acosta. Mais il ne fait toujours aucune mention de torture. Insuffisant pour l'opposition qui a convoqué une manifestation vendredi 5 juillet, jour de la fête nationale, pour la fin des tortures, des assassinats et des violations des droits de l'homme. Benjamin Delisle, Caracas RFI.
Direction le Brésil à Rimoula. Non, pardon, on va au Chili tout de suite, qui attend aujourd'hui un événement historique.
Oui, une éclipse totale du soleil pourrait être observée ce mardi, Anne, à condition d'être munie des lunettes adaptées, évidemment, des lunettes qui se vendent comme des petits pains dans la région d'Atacama, écrit le journal Janacio. Le Diario de Atacama sort une édition spéciale éclipse. Des conditions de météo seront bonnes, ouf, le ciel dégagé, écrit le journal. Un événement donc à ne pas rater, conseille le quotidien, car Anne, la prochaine éclipse totale du soleil au Chili n'aura pas lieu avant 200 ans.
Merci à Rim Lipol pour cette revue de presse des Amériques. Et on retourne au Venezuela où la situation humanitaire s'aggrave de jour en jour, vous le savez, et l'arrivée de l'aide humanitaire peine à entrer dans le pays. En parallèle, la diaspora vénézuélienne vivant à l'étranger se mobilise et des associations citoyennes d'exilés parviennent à faire arriver des cargaisons de médicaments dans le pays. La première est une association américaine, la deuxième est basée en Italie. C'est le plus gros pourvoyeur d'aide médicale européen pour le Venezuela. Le reportage de Carlotta Morteo dans le sud-est de l'Italie.
En ce dimanche, le petit stand jaune-bleu-rouge détonne sur la place du Duomo de l'Aquila. Dans la bonne humeur, une dizaine d'Italo-Vénézuéliens de la région invitent les habitants de cette ville décimée par un tremblement de terre il y a 10 ans à faire preuve à leur tour de solidarité. Maria Esther Verrocchio, bénévole.
On peut aider concrètement en donnant des médicaments, mais aussi des béquilles, des poussettes, des biberons, des vêtements parfois. Mais surtout, on demande des médicaments et du lait en poudre pour les enfants.
Une dame s'approche pour déposer un carton. Dedans, des serviettes hygiéniques, des couches, de l'aspirine.
Que Dieu nous vienne en aide pour le Venezuela. Merci, merci.
Mercedes Plancinella, la cinquantaine, a quitté le Venezuela en 2008. Comme la plupart des 400 000 Vénézuéliens qui vivent aujourd'hui en Italie, elle a bénéficié d'une loi qui octroie la nationalité aux descendants d'Italiens ayant émigré à l'étranger dans le passé. Elle est très émue.
Moi, je suis née là-bas. Mes parents sont morts là-bas. Mon père était parti pauvre d'Italie et a fait fortune au Venezuela. Il adorait ce pays et il ne serait jamais rentré ici. Alors, comment puis-je oublier mon pays ?
Les dons récoltés aujourd'hui sont acheminés dans un grand hangar dans la périphérie industrielle de la ville. C'est le centre névralgique de Alianlus, ce réseau d'aide humanitaire fondé il y a 3 ans par le chirurgien italo-vénézuélien Eduardo Lombroni.
RM Roma. Regarde, Rome, Salerne, Naples, ça, ce sont les cartons qui viennent d'arriver des 29 centres de collecte qu'on a mis en place dans le pays. Là, ce sont les tables de tri. Il faut classer tous les médicaments, tout répertorier. Là, dans ces boîtes, il y a plus de 80 000 comprimés antibiotiques.
85% des médicaments servent à traiter les maladies chroniques, diabète, hypertension, antibiotiques. Le reste, à soigner les infections virales, dont la dengue ou la tuberculose.
On a commencé avec 300-400 kilos la première année. Jamais on n'aurait pensé que notre organisation grossirait autant. Au niveau européen, en termes de quantité de médicaments envoyés, nous sommes l'association la plus importante. Sans compter l'envoi des dispositifs médicaux, en 2018, on a envoyé au Venezuela 14 000 kilos de médicaments. Sachant qu'une boîte peut peser entre 18 et 22 grammes, vous imaginez les milliers et milliers de médicaments qui sont sortis d'ici.
Comment est-ce que vous parvenez à faire arriver tous ces médicaments ?
C'est une question intéressante, mais c'est une question sensible. Disons que nous arrivons à entrer au Venezuela. Après, notre principal souci, c'est d'avoir les finances nécessaires. Parce qu'envoyer des conteneurs par bateau ou par avion, c'est extrêmement cher.
Il ne le dira pas au micro, mais on finit par le comprendre. Pour passer les douanes au Venezuela, il faut payer des dessous de table, graisser la patte de militaires, de fonctionnaires, et prendre le risque qu'ils se servent dans les cartons et détournent une partie de la marchandise à des fins politiques ou économique.
Il faut savoir que la valeur d'une boîte de médicaments au Venezuela peut être plus élevée que le salaire mensuel moyen d'une personne.
L'association envoie ses médicaments à 3 hôpitaux de Caracas, à leurs antennes en province et à 18 diocèses du pays, via des associations locales qui leur garantissent, documents à l'appui, que les médicaments sont distribués gratuitement et sur ordonnance.
On évite les institutions qui ne font pas de contrôle dans la distribution, en l'occurrence les hôpitaux publics qui sont sous la tutelle du gouvernement. La direction dit ne pas vouloir d'ingérence, même si la crise sanitaire est grave. Mais le gouvernement vénézuélien ne fait rien pour régulariser l'arrivée des aides médicales. Il ne déclarera jamais l'état d'urgence humanitaire parce que cela déclencherait une série de mesures au niveau des Nations Unies qui feraient probablement vaciller la solidité du gouvernement vénézuélien actuel.
Carlotta Morteo, de retour d'Italie, RFI.
Et tout de suite les Outre-mer avec le journal La Première Caraïbe présenté par Alex Léveillé. Bonjour Alex.
Bonjour Anne.
À la une, ce nouveau plan pour lutter contre le chlordécone aux Antilles.
Oui, le chlordécone, cet insecticide utilisé aux Antilles de 1972 à 1993, malgré son interdiction en France depuis 1990. L'objectif de ce plan, c'est que le taux de chlordécone soit réduit à zéro. Roger Genet, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail est venu en Martinique et il en a profité pour annoncer le lancement d'une étude sur les expositions alimentaires des populations de Martinique et de Guadeloupe. Roger Genet.
Alors l'étude que nous avons proposée, effectivement c'est très novateur, puisqu'il s'agirait en fait d'avoir une étude de l'alimentation totale, donc de l'ensemble des expositions par voie alimentaire. Alors, l'objectif il est de sortir de la façon dont nous procédons aujourd'hui, qui est de mesurer les contaminations à la chlordécone ou à d'autres produits pesticides dans chaque groupe d'aliments, pour établir un lien entre cette exposition et un certain nombre de pathologies, mais de véritablement faire une photographie de l'ensemble des expositions auxquelles nos citoyens aux Antilles sont exposés par la voie alimentaire, avec les aliments tels qu'ils sont consommés, tels qu'ils sont cuisinés, tels qu'ils sont consommés aux Antilles, de façon à avoir véritablement une vision de l'ensemble des facteurs d'exposition et pouvoir adapter les politiques publiques dans l'objectif qui est réduire le plus possible les expositions par voie alimentaire, et notamment en matière de risques chimiques, et améliorer la sécurité sanitaire avec des politiques publiques adaptées.
Roger Genet, directeur de Lens, c'était au micro de Pierre-Yves Honoré de Martinique La Première. La compagnie Total signe un chèque de 3 millions d'euros pour la pêche en Guyane. Cette convention d'accompagnement du secteur de la pêche guyanaise est consécutive aux activités d'exploration du pétrolier en Guyane. Total, à l'époque, en contrepartie d'une possible exploitation des ressources naturelles, avait souhaité montrer bonne figure et avait promis de financer des mesures d'accompagnement de la filière pêche avec pour objectif de la pérenniser. Le représentant de la multinationale en Guyane, Olivier Vatez.
Total respecte ses engagements. On avait construit ce partenariat en marge de notre projet d'exploration. Aujourd'hui, ce que vous avez eu, c'est la première brique concrète de la mise en place de ce partenariat à travers les 1,5 million d'euros de donations directes auprès des pêcheurs. Alors, il y en a plusieurs d'autres briques. Il y a une brique sur la formation et puis il y aura la brique du fonds d'investissement territorial. Tout ça prend du temps. Il y a des réglementations respectées. Donc, ça sera mis en place d'ici la fin de l'année, voire début de l'année prochaine. Total respectera ses engagements et accompagnera donc l'emploi local et les PME en Guyane. On a terminé nos activités et on ferme les bureaux. L'activité logistique est terminée. On a encore quelques tuyaux à exporter depuis la base logistique de Desgrades des Cannes. Mais oui, c'est la fin de nos activités en Guyane.
Voilà le représentant de la multinationale Total en Guyane, Olivier Vatez, qui était au micro de Nickerson Perdius de Guyane La Première. C'est la fin de cette édition. Merci à Nicolas Palcaution pour la mise en onde. Excellente journée à tous.
Merci, très bonne journée à vous également, Alex Léveillé. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous être fidèles. On se retrouve demain 14h10, heure de Paris, midi 10, en temps universel. N'oubliez pas notre site internet www.rfi.fr ainsi que les réseaux sociaux, Facebook notamment, et on se retrouve dans une minute maintenant pour le retour de l'actualité sur RFI.
Au cœur du marché de Bujumbura
ou sur les bords du lac Tanganyika,
RFI à Bujumbura sur 96.1 FM.
Dans le quartier de Gracia
ou tout au long de la Ramblas,
RFI à Barcelone sur 105.3 FM.
Dans les rues de Pétionville
ou dans les allées du marché en fer,
RFI à Port-au-Prince sur 89.3 FM.
Pour connaître nos fréquences dans le monde, connectez-vous sur RFI.fr.